Mon haleine du matin réchauffait l'oreiller et j'ai changé de sujet mentalement. Ce n'était pas le jour pour se livrer à l'autocritique ou au regret. C'était le jour pour agir. Au rez-de-chaussée, j'entendais le retour d'un son longtemps disparu. Amy préparait le petit déjeuner. Elle entrechoquait des cuillères en bois, bam, bam, ou des récipients en alu et en verre, cling, clang, et triait une collection de pots et de casseroles en métal ou en fonte. L'accordage d'un orchestre culinaire qui retentissait vigoureusement avant le grand final. Un roulement de tambour sur moule à gâteau dans tout l'étage qui s'est achevé contre le mur dans un grand coup de cymbale. Quelques mets impressionnants étaient en préparation, sans doute une crêpe française, car les crêpes françaises, c'est exceptionnel. Et aujourd'hui, Amy voulait sans doute cuisiner un mets exceptionnel. C'était notre 5e anniversaire de mariage. Pieds nus, je suis allé jusqu'en haut de l'escalier et j'ai écouté, les orteils enfoncés dans la moquette épaisse qu'Amy détestait par principe. J'essayais de décider si j'étais prêt à aller rejoindre ma femme. Elle fredonnait un air mélancolique et familier dans la cuisine, inconsciente de mon hésitation. J'ai eu du mal à retrouver ce que c'était. Un vieil air folk, une berceuse. Mais j'ai fini par reconnaître le thème de MASH. « Suicide is painless ». Le suicide, c'est sans douleur. Je suis descendu. Je me suis attardé dans l'embrasure de la porte pour l'observer. Ses cheveux, couleur beurre frais, étaient relevés en une queue de cheval qui se balançait joyeusement comme une corde à sauter, et elle susautait d'un air distrait une brûlure au bout de son doigt en fredonnant. Si elle chantait si bas, c'est qu'elle était une massacreuse de paroles sans égale. Au tout début de notre histoire, une chanson de Phil Collins s'était passée à la radio. « She seems to have an invisible touch, yeah. » Elle semble avoir la faculté d'établir un contact invisible. À la place, Amy chantait « She takes my hat and puts it on the top shelf. » Elle prend mon chapeau et le met sur l'étagère du dessus. Quand je lui ai demandé comment elle avait jamais pu penser que sa version était lointainement, possiblement, vaguement correcte, elle m'a expliqué qu'elle avait toujours cru que la nana dans la chanson aimait vraiment le mec parce qu'elle mettait son chapeau sur l'étagère du dessus. Là, j'ai su qu'elle me plaisait. Qu'elle me plaisait vraiment beaucoup, cette fille qui avait une explication pour tout. Il y a quelque chose de perturbant à se sentir glacé alors qu'on évoque un souvenir heureux. Amy a jeté un coup d'œil à la crêpe qui grésillait dans la poêle et léché un petit éclat de pâte sur son poignet. Elle avait l'air conquérante, l'épouse idéale. Si je la prenais dans mes bras, elle sentirait probablement les fruits rouges et le sucre en poudre. Quand elle m'a surpris, planquée là dans mon caleçon cradingue, les cheveux en pétard, elle s'est appuyée contre le bar américain et m'a dit « Tiens, salut beau gosse !» De la bile et de la terreur me sont remontées dans la gorge. Je me suis dit « Ok, c'est parti. » J'étais très en retard pour aller bosser. Ma sœur et moi, nous avions fait une bêtise en revenant au pays. Nous avions fait ce que nous avions toujours dit que nous ferions. Nous avions ouvert un bar. Nous avons emprunté de l'argent à Amy, 80 000 $, ce qui autrefois n'était rien pour Amy, mais à l'époque représentait presque tout. J'ai juré que je la rembourserais avec intérêt. Je n'allais pas être ce genre de mec qui emprunte du fric à sa femme. J'imaginais la grimace de mon père à cette simple idée. « Il y a plusieurs sortes d'hommes !» Son expression la plus accablante, dont la seconde moitié restait non dite. « Et tu appartiens au genre que je n'aime pas !» Mais en vérité, c'était une décision pratique, une entreprise avisée. Amy et moi, nous avions tous deux besoin d'une profession. Ça, ce serait la mienne. Elle en choisirait une, un jour ou pas, mais, entre-temps, ça nous ferait un revenu, et c'était rendu possible par le reste du fidéicommis d'Amy. Tout comme l'immense maison que j'avais louée, le bar apparaissait comme un symbole dans mes souvenirs d'enfance. C'était un lieu où seuls vont les adultes pour s'adonner à leurs activités d'adultes. Peut-être que c'est pour ça que j'ai tellement insisté pour l'acheter, après avoir été privé de mon gagne-pain. Il sert à me rappeler que je suis, après tout, un adulte, un homme, un individu utile, bien que j'aie perdu le métier qui faisait de moi toutes ces choses. Je ne referai pas la même erreur. Les hordes autrefois fournies des écrivains pour magazines vont continuer de se faire saquer, à cause d'Internet, à cause de la récession, à cause du public américain, qui préfère regarder la télé ou jouer à des jeux vidéo, ou encore informer ses amis par voie électronique que, n'est-ce pas, la pluie, ça craint. Mais aucune application ne viendra jamais remplacer une cuite au bourbon dans un bar frais et sombre par une chaude journée. Le monde aura toujours envie de boire un coup. Notre bar est situé à un coin de rue. Il semble fait de briques et de brocs, décoré au petit bonheur. Son meilleur atout, c'est un énorme vaisselier victorien avec des têtes de dragon et des visages d'anges sculptés dans le chêne. Une extravagante pièce de menuiserie à notre époque de plastique merdique. Le reste du bar est, de fait, merdique. On dirait une exposition des idées déco les plus miteuses de chaque décennie. Un sol en lino de l'ère Eisenhower, qui rebique sur les bords comme un toast cramé, des murs lambrissés qui semblent tout droit sortis d'un porno amateur des années 1970, des lampadaires halogènes, hommage fortuit à ma période CTU dans les années 1990. Au final, l'effet est étrangement accueillant. On dirait moins un bar qu'un appart qui aurait besoin de quelques travaux. Et jovial. Nous partageons le parking du bowling voisin. Et quand on ouvre grand nos portes battantes, le bruit des boules qui s'entrechoquent est là pour applaudir l'entrée du client. Nous avons baptisé le bar « Le bar ». Les gens penseront que c'est un trait d'ironie, pas un manque flagrant d'imagination, s'est dit ma sœur. Oui, nous nous prenions pour des New-Yorkais roublards. Nous pensions que ce nom était une blague que personne ne comprendrait vraiment, pas comme nous la comprenions. Les Carthaginois ne pigeraient pas notre méta-humour. Nous nous les imaginions froncer le nez. Pourquoi vous l'avez baptisé Le Bar ? Mais notre première cliente, une femme grisonnante qui portait un jogging rose et des lunettes à double foyer, nous a dit « J'aime bien le nom. C'est comme dans Diamant sur canapé, le chat d'Audrey Hepburn qui s'appelle Chat. » Notre sentiment de supériorité en a pris un coup, ce qui n'était pas un mal. Je me suis garé et j'ai attendu d'entendre un claquement de boules émerger du bowling « Merci, merci les amis » pour descendre de voiture. J'ai admiré les environs, toujours pas lassé par la vue partiellement bouchée. L'imposant bureau de poste en briques claires de l'autre côté de la rue, désormais fermé le samedi, le modeste immeuble de bureau beige juste après, désormais fermé tout court. On ne pouvait pas franchement parler de prospérité. Bon sang, on ne pouvait même pas prétendre à l'originalité, n'étant qu'une des deux villes baptisées Carthage dans le Missouri. Techniquement, la nôtre, c'est North Carthage, ce qui évoque deux villes jumelles, alors qu'elle est à plusieurs centaines de kilomètres de l'autre et beaucoup plus petite. Un petit patelin pittoresque des années 1950 qui a gonflé jusqu'à devenir une banlieue de taille moyenne et a décrété que c'était là un progrès. Mais enfin, c'est là que ma mère avait grandi et nous avait élevés, Go et moi. Ce n'était pas une banlieue pavillonnaire anonyme comme tant d'autres. Elle avait une histoire. La mienne, du moins. Tandis que je traversais le parking bétonné et ses mauvaises herbes pour rejoindre le bar, j'ai regardé vers le bout de la route et j'ai vu le fleuve. C'est ça que j'ai toujours aimé dans notre ville. Elle n'est pas construite au sec sur un promontoire qui surplombe le Mississippi. Nous sommes sur le Mississippi. Il me suffisait de faire quelques pas sur la route pour plonger direct dans la flotte, à peine un mètre plus bas, et partir pour le Tennessee à la nage. Sur tous les bâtiments du centre-ville, on peut voir les marques faites par les habitants pour indiquer les hauteurs atteintes par le fleuve lors des crues de 1961, 1975, 1984, 1993, 2007, 2008, 2011, et ainsi de suite. Le fleuve n'était pas en crue pour l'instant, mais le courant était rapide et puissant. Une longue file d'hommes, les yeux baissés, les épaules contractées, marchait avec régularité vers nulle part au rythme de l'eau. Pendant que je les regardais, l'un d'eux a soudain levé les yeux sur moi. Son visage plongé dans l'ombre formait une flaque ovale. Je me suis détourné. J'ai ressenti un besoin pressant, violent, de rentrer. Je n'avais pas fait 10 mètres que mon cou était trempé de sueur. Le soleil était encore un œil fâché dans le ciel. Tu as été vu. Mes boyaux se sont noués et j'ai pressé le pas. J'avais besoin d'un verre.